Une revue de presse à distance, en liaison téléphonique améliorée avec vous. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Eric, bonjour Patricia et bonjour à tous.
Bonjour.
Je reste donc confiné. Tu restes confiné. Nous restons confinés et au moins jusqu'à la mi-avril, a annoncé sans surprise le Premier ministre hier. L'annonce fait la une de nombreux journaux ce matin. 15 jours de plus pour commencer, précise Centre Presse, tandis que Libération Champagne invite ses lecteurs à respecter le mot d'ordre. Restez encore chez vous, même si, comme le reconnaît Varmatin, 2 semaines de plus, c'est sûr, ça va être long. Et parmi ceux qui trouvent ce temps particulièrement long, on trouve notamment les dealers et les consommateurs de drogue. J'avoue que c'est un sujet auquel je n'avais pas du tout songé avant de lire cette enquête dans Le Monde. Le trafic de drogue paralysé par le confinement. À cause de la fermeture des frontières qui empêche l'approvisionnement, à cause de l'interdiction des déplacements, à cause des contrôles policiers. Parole d'un Parisien de 40 ans, addict au cannabis. Déjà qu'on est enfermé, si en plus je dois me sevrer, contraint et forcé, je ne sais pas ce que ça va donner. Avant l'annonce du confinement, il a fait des réserves, mais pas de quoi tenir plusieurs mois. Avec la crise sanitaire, ce marché souterrain, illégal rappelons-le, tourne donc au ralenti. Un marché qui pèse tout de même en temps normal autour de 3,5 milliards d'euros par an. C'est vexant, ironise un policier spécialisé dans la lutte contre les trafics de stupéfiants. Le coronavirus, dit-il, a réussi là où depuis toujours on a échoué. Plus possible pour les dealers d'aller se ravitailler en herbe aux Pays-Bas. Plus possible non plus d'importer de la cocaïne d'Amérique latine. Et sur le territoire, la police surveille les points de vente habituels en la voyant la plupart des acheteurs rebroussent chemin. Les autres se prennent des amendes pour non-respect du confinement et ceux qui dealent des drogues considérées comme festives, l'ecstasy par exemple, se retrouvent au chômage technique. L'un d'eux se confie au journal. Sa marchandise n'a plus la cote. Les gens n'en veulent plus vu qu'il n'y a plus de fête, dit-il. Qu'il n'y ait plus de fête, c'est triste. Mais qu'il y ait moins de trafic, a priori, on se dit que c'est une bonne nouvelle.
Oui, sauf que les trafiquants de drogue se sont déjà réorganisés.
Notamment en développement, les livraisons à domicile, croissance exponentielle de livreurs de repas en scooter dans certains quartiers. Est-ce vraiment des repas dans les sacs ? Du reste, une fois les réserves écoulées, les autorités redoutent que les trafiquants se réorientent temporairement vers d'autres secteurs criminels en braquant des commerces ou des distributeurs de billets. Ne jamais se réjouir trop vite de ce qui peut apparaître comme une bonne nouvelle. Cela dit, des bonnes nouvelles, on en trouve malgré tout quelques-unes dans les journaux.
Oui, et notamment dans le Figaro qui nous raconte ce matin la générosité des Français.
La France généreuse, c'est le titre à la une et le dossier évoque tous les gestes d'entraide qui se multiplient depuis 10 jours. Des restaurateurs qui cuisinent pour les soignants du CHU de Nantes, de jeunes niçois qui font les courses pour les personnes âgées de leur quartier, un parfumeur de Valoris qui fabrique et qui offre des bidons de gel hydroalcoolique. L'épidémie de Covid-19 aurait donc déclenché une autre vague, celle de la solidarité. Même le monde du sport met la main au portefeuille avec différentes cagnottes lancées pour soutenir les malades ou les soignants. Avec l'arrogance qu'il caractérise, le footballeur de l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, a battu le rappel afin d'aider les hôpitaux italiens. Si le virus ne va pas à Zlatan, Zlatan ira au virus. Dans la série des bonnes nouvelles, il y a aussi ces guérisons dont se font l'écho les journaux, notamment le journal de Saône-et-Loire ce matin, qui nous apprend le rétablissement d'une nonagénaire mâconnaise placée sous oxygène pendant 10 jours. Elle peut désormais respirer de nouveau sans l'aide d'une machine. L'un de ses petits-fils dit son soulagement dans les colonnes du journal. Il salue, je cite, le travail incroyable de tout le personnel soignant.
Et ce personnel soignant, ce matin encore, la presse lui rend hommage.
Avec un numéro spécial du magazine Elle, dont la une est dédiée aux infirmières et aux aides-soignantes, il y a ce mot « merci » et cet autre mot « héroïne ». Mais certaines récusent ce terme d'héroïne. On fait simplement notre travail, disent-elles, et on aimerait avoir les moyens de le faire correctement. Les moyens de lutter et de sauver des vies. 1995. Depuis hier soir, c'est le bilan officiel des personnes décédées en France du Covid-19. Bilan provisoire et qui ne prend en compte que celles et ceux qui sont morts dans les hôpitaux. 5 visages s'affichent à la une d'aujourd'hui, le Parisien, 2 hommes, 2 femmes et le sourire d'une adolescente.
Oui, ces visages qui sont pour le quotidien les visages de la tragédie.
Car oui, derrière ce nombre 1995, il y a des visages et des vies. Le journal nous les raconte dans un dossier qui tient à la fois de l'hommage et du rappel à l'ordre. Personne n'est à l'abri. Hommage à une femme de 89 ans, Jeanne-Élisabeth, que ses petits-enfants surnommaient grand-mère Kiok, originaire de Metz, ancienne institutrice. Elle profitait de sa retraite pour multiplier les voyages avec ses petits-enfants. Pour ses 90 ans, elle préparait une grande fête, raconte une de ses petites filles. Elle avait promis une surprise. On ne saura jamais ce que c'était. Hommage également à Patrick Guigon, le premier gendarme fauché par le coronavirus. Ce sous-officier de 51 ans était père de 3 enfants. Il est décédé à la caserne de Maison-Alfort où il vivait avec sa famille. Autre visage, celui d'Aïcha Issadouden, caissière depuis 30 ans à l'hypermarché Carrefour de Saint-Denis, un cœur en or, disent ses collègues et ses amis, célibataires, 52 ans. Elle passait ses journées à aider les gens. Alain Siekapenkemayou, lui, n'avait que 45 ans. Et une carrure de sportif, c'était le chef de la sécurité du centre commercial au Paris Nord, d'Aunay-sous-Bois. Et puis bien sûr, il y a Julie, qui selon le Parisien est devenue le visage de l'épidémie. Julie, lycéenne de 16 ans, et qui au départ ne souffrait que d'une petite toux. Elle était passionnée par la danse et par la mode. Elle rêvait plus tard de devenir organisatrice de mariage. Elle est la plus jeune patiente en France emportée par le coronavirus. Un cas rarissime, insistent les médecins. Mais un cas qui rappelle donc que le virus peut tuer à tous les âges. Je reste confinée. Tu restes confiné, mes amis, restons confinés.
Mais restez chez vous, hein, comme une injonction qu'il faudra bien respecter pour le bien de tous. Merci Frédéric Pommier.